France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles, des événements, des lieux sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un lieu emblématique d'Île-de-France, un véritable musée à ciel ouvert, un lieu où se rencontrent toutes les cultures, les époques, les talents, un lieu populaire lié à l'histoire de la capitale, les Puces de Saint-Ouen. Et pour en savoir plus sur ce premier marché de l'art et de l'antiquité du monde, nous sommes avec celle qui en connaît pratiquement tous les secrets, Anne-Sophie Dernas, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Anne-Sophie, vous connaissez très bien ce lieu, vous le faites découvrir puisque vous êtes guide pour la société, entre autres, la société Cultival qu'on connaît bien ici. On le sait, elle organise des visites dans de nombreux lieux à Paris ou en région parisienne. Alors les Puces de Saint-Ouen, depuis quand existe-t-elle? Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi ce surnom? Pourquoi visite-t-on les Puces de Saint-Ouen? Pourquoi faut y aller? On veut tout savoir. Et justement, ma première question... Tiens, si je vous dis, pourquoi est-ce qu'on doit visiter finalement les Puces de Saint-Ouen? Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi est-ce que je dois y aller ou emmener mes enfants, vous diriez quoi?
Pour plein de raisons. Plein de raisons parce que globalement, tout le monde peut trouver quelque chose qui fait appel à des choses qu'il a aimées, des choses de son passé, des souvenirs d'enfance. Moi, je suis très sentimentale et très mélancolique, mais même si on ne l'est pas, forcément, c'est toujours un voyage intéressant. On est loin des objets stéréotypés, on est loin de la pensée unique, on est juste dans un univers qui est tellement hétéroclite où il y a des objets qui viennent du monde entier, des quatre coins du monde, et puis juste des objets qui viennent de différentes époques. Fait à la main, enfin c'est tout l'artisanat français, c'est simplement parce que ça peut éventuellement susciter une émotion chez n'importe qui.
Puis on peut s'acheter des fringues.
On peut s'acheter des fringues, des fripes.
Des fripes, hein.
Ouais, des fripes, on parle plutôt de fripes, mais des fringues aussi. Il y a absolument tout. En fait, c'est 15 marchés. Mmh. C'est des marchés dans les marchés, donc c'est assez labyrinthique. Il vaut mieux avoir un petit plan. Il y a des marchés couverts ou des marchés à ciel ouvert, c'est 7 hectares. Il y a entre 1500 et 2000 marchands. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des antiquaires ou des brocanteurs, mais à la base c'est un très très vieux métier
alors,
de Paris en fait.
On va commencer par ça, parce que alors évidemment ce lieu très populaire a sa propre histoire, hein, comme toutes les histoires. On pourrait commencer par il était une fois dans des temps, d'abord des temps pas si lointains que ça. Anne-Sophie, on pourrait commencer par quoi? Bon, par exemple, qui y avait-il à cet endroit avant que s'installe?
Avant, honnêtement, c'était des maraîchers, c'était un tout petit village Saint-Ouen, il y avait des vignes, il y avait des maraîchers, c'était assez bucolique, c'était un endroit qui était vraiment loin, enfin qui semblait loin de Paris. Et quand il y a eu le premier métro, enfin le métro du moins de la ligne 4 en 1908, c'était un endroit que les Parisiens fréquentaient parce que justement ça avait le charme d'être loin de Paris, d'être assez bucolique, et surtout il y a une zone, une sorte de terrain vague où les chiffonniers vont pouvoir s'installer. Mais ils ne s'installeront pas que là, pas que à Clignancourt, il y a Vanves, il y a Kremlin-Bicêtre, il y a Montreuil aussi, enfin ils vont s'installer globalement là où ils peuvent s'installer. Et Vanves, c'était l'une des plus grosses concentrations de marchands, en fait.
Parce que, évidemment, ces puces, ces marchés à ciel ouvert, leur origine, ce sont ces fameux chiffonniers qui, il me semble, sont arrivés à Paris, peut-être bien grâce ou à cause de Eugène Poubelle, qui avait interdit les dépôts d'ordures devant les immeubles. Alors, c'était quoi le métier de chiffonnier?
Alors, le chiffonnier, globalement, c'est l'un des plus vieux métiers de Paris. C'est l'un des plus vieux métiers qui existent dans toutes les cités, les plus anciennes. Il y a toujours eu des récupérateurs qui ont récupéré les objets. C'est les matelas éventrés au 19e, par exemple. C'est la vaisselle ébréchée. C'est les chiffons. Mais faut imaginer qu'on est dans une logique qui est pas de consommation, mais de récupération au maximum. On utilise les objets jusqu'au dernier moment. On répare, on récupère jusqu'au dernier moment. Et à partir du moment où il est plus du tout utilisable, alors effectivement, on le met pêle-mêle dans la rue comme ça. Et ça, c'est les chiffonniers qui vont ramasser tout ça. Donc c'est des gens qui ramassent... Généralement, on le voit plutôt, enfin la nuit, ça a été un peu stéréotypé, mais c'est la nuit, il sort, il a une hotte dans son dos, il a un bâton avec un crochet au bout de son bâton, et il ramasse et il met dans sa hotte. Et donc, c'est un métier qui s'est vraiment marginalisé au 19e siècle, mais qui est très important, c'est un acteur vraiment de la vie du 19e.
Et alors, à ce moment-là, ils ont leur chiffon et ils décident d'aller vers Saint-Ouen pour les exposer et les vendre.
Saint-Ouen, c'est intéressant parce que c'est y a un terrain vague. vagues. Mmh. Donc il y a une zone, on est près de Paris, on est juste à côté de Paris, on est à côté de Montmartre, on est à côté de Pigalle. Et puis c'est une zone libre. Donc au départ, ils s'installent parce que ils sont repoussés de Paris, ils sont marginalisés. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand il y a les grands travaux du Paris haussmannien sous Napoléon III, on voit une ville qui s'embellit. Il y a les grands boulevards, il y a les grandes avenues. Mmh. C'est une ville qui devient plus aristocratique, plus sophistiquée. Et alors que l'éclairage, bah voilà, se met en place, puis ça se multiplie, bah les pauvres, ils deviennent trop voyants. Et puis les marginaux, parce qu'on les considère comme des marginaux, ils deviennent un petit peu, enfin voilà.
Ça, on les repousse quoi.
On les repousse.
Faut pas les voir, les mendiants, tout ça.
Exactement. On veut pas les voir. Donc on va les repousser par décret, par loi, et au fur et à mesure du temps, bah ils vont se retrouver en dehors, mais ils sont contraints, ils n'ont pas envie, parce qu'au départ les chiffonniers, on les retrouve à Paris, place Maubert, du côté bah du marché Maubert qui existe encore.
Oui, qui existe
place
encore, Monge,
on les retrouve partout à Paris, et ils vont petit à petit se marginaliser, se retrouver en dehors de Paris, contraints et forcés, et c'est là qu'ils vont s'installer du côté des puces.
Et ce qui est marrant, c'est que là vous nous rappelez ça, le fait qu'on va aller acheter un petit peu de la vie, mais c'est vrai que même déjà à la fin du 19e siècle, les Parisiens qui voulaient un peu s'encanailler, comme on disait, bah ils allaient dans ces endroits-là, il y avait des guinguettes déjà.
Absolument.
Où on faisait un petit peu n'importe quoi, où il y avait des bastons,
absolument,
des trafics, des danseuses, des prostituées.
Absolument.
Et les chiffonniers.
Oui, absolument, parce qu'au-delà des ports de Paris, bah, en fait, on ne paye pas de taxes. Alors, ça veut dire que l'alcool est moins cher, tout est moins cher. Le sucre, l'huile, le café, tout est moins cher. Donc, d'abord, c'est les puciers qui s'installent, puis ensuite, ils vont être suivis par les tziganes, c'est des familles qui viennent en roulotte et qui s'installent aussi, qui amènent leur musique. C'est pour ça que les puces sont très liées à la musique du jazz manouche. Et puis, les Parisiens vont y aller parce que c'est bucolique, parce que c'est exotique. Il y a des guinguettes qui vont s'installer. Il y a des guinguettes centenaires encore aux puces.
Ouais.
Donc, bah voilà, c'est vraiment l'héritage de tout ça, d'une mixité, d'une rencontre entre plein de populations.
Bon, on va voir comment cela s'organise, parce qu'on a vu effectivement comment est né ce lieu. C'est absolument génial de repenser à cette ambiance-là. Ça donne envie de replonger dans le passé, mais c'est pas possible. Les puces de Saint-Ouen, des lieux qui ont gardé leur nom, leur identité, parfois même donc leur folklore, on en parlait à l'instant, on leur désordre également. On va visiter, puis on va vous raconter dans un instant, tiens, en fait, pourquoi ça s'appelle les puces. On voit ça dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Reviens là.
Indila, dernière danse sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Paris, Paris, 7 hectares, 4e site touristique de France, 12 marchés, 2000 marchands, 5 millions de visiteurs par an, les plus de Saint-Ouen. C'est le premier marché de l'art et de l'antiquité au monde. Anne-Sophie Dernas connaît bien cet endroit, elle est guide notamment pour la société Cultival. Quand je dis, Anne-Sophie, quand je dis premier marché de l'art et de l'antiquité du monde, ça veut dire que... Il n'y a pas plus gros dans le monde.
Hein. Non, c'est pas en termes de volume. Alors, le volume est important, c'est 7 hectares, mais c'est en termes aussi de qualité des objets, qualité des restaurations. Donc, ça, ouais, y a les deux à prendre en compte. Ouais.
On le disait à l'instant, cet endroit devient un endroit un petit peu où effectivement on peut acheter des choses grâce aux chiffonniers. Bon, à l'époque, on est à la fin du 19e, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Quand est-ce que ça commence à s'organiser tout ça? Quand est-ce que, je sais pas, quand est-ce que par exemple on voit arriver des baraquements? Parce qu'au début c'était des baraquements, mais...
Au début ça se faisait même le sol.
Même le sol, hein, c'est ça.
Les objets étaient déposés à même le sol. En fait, ça se fait vraiment parce que du coup, on va, comme je le disais, on les repousse en dehors de Paris parce qu'il y a... Alors, je dirais officiellement, c'est problème d'hygiène. Il y a des les chiffonniers sont priés d'aller en dehors de Paris pour des problèmes d'hygiène parce qu'il y a Eugène Poubelle, parce qu'on est après les travaux Pasteur, donc il y a une vague hygiéniste qui se met en place. Mmh. Mais en réalité, le Paris s'embellit et c'est juste que il dérange énormément. La misère embarrasse la voie publique et qu'ils vont être mis en dehors. Donc ça s'organise vraiment. Là, on est autour des travaux haussmanniens, donc on est dans les années 1860-70, et en fait ça se met vraiment en place officiellement. On parle de 1885-80, on est dans ces eaux-là.
Ça devient officiel qu'on peut.
Ça devient
vendre.
Officiel.
C'est la mairie de Saint-Ouen, j'imagine, c'est la localité qui s'en occupe.
Oui, petit à petit,
toujours.
La mairie de Saint-Ouen s'en est occupée. Au départ, personne s'en occupe. Ils ont très bien vu que ça suscitait quand même l'intérêt, qu'il y avait de plus en plus, d'autant plus quand le métro a été fait, que ça suscitait l'intérêt des Parisiens. Au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça a suscité l'intérêt. De la mairie de Saint-Ouen.
Ah bah oui.
Alors la grande l'âge d'or des puces, on peut considérer que c'est aussi après-guerre, parce que après-guerre, déjà je pense qu'il y a une conscience particulière et c'est une période tellement douloureuse que on a une autre manière de considérer l'objet, les objets du passé, les objets qui font référence à des choses qu'on a aimées, qu'on a connues, des gens qu'on a aimés. Ça fait appel à la mélancolie, à la nostalgie, donc on est d'autant plus enclin à y aller. Puis il y a toute la période hippie. Alors la période hippie,
on achète des fripes, quoi.
Ouais, exactement. On lutte contre la société de consommation. Mmh. Donc on va trouver ces fringues, ces fripes du côté du marché des puces, quoi. Et donc voilà, il y a des phases comme ça qui ont été très très importantes.
Quand est-ce que ça devient... Est-ce que tout d'abord c'était comme aujourd'hui, les puces, c'est vendredi, samedi, dimanche, hein, on est bien d'accord?
Ouais, c'est ça. Alors je précise juste vendredi, si jamais c'est plutôt pour les professionnels. Alors nous, c'est plutôt samedi, dimanche, lundi.
Oui,
pour toutes les personnes. Vendredi, c'est plutôt pour les professionnels.
Et quand est-ce que les antiquaires vraiment s'installent?
S'installent, c'est ça, on est dans les années... Alors quand il y a les premières baraques, c'est au début du 20e, ils s'installent, il y a ces premières baraques, alors je parle de baraques, je parle pas de maison parce que c'est vraiment fait de briques et de brocs, et ils s'installent et voilà, et ça va grandir petit à petit, et ça va être un peu l'euphorie. Quoi.
Le métro, il arrive à la porte de Clignancourt en 1908, exactement.
Donc
ça. J'imagine que là aussi, il y a...
Oui, parce que c'est la promenade dominicale,
voilà,
les Parisiens, ils vont le dimanche, parce que c'est exotique, parce que c'est bucolique, et il faut imaginer. Imaginez aussi qu'on est, on n'y a pas le Quai Branly qui n'existe pas, il n'y a pas non plus le Musée de l'Homme. Donc on vient voir des objets qui viennent du monde entier dans une période où on n'a pas tellement accès à des objets qui viennent d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique.
C'est un vrai musée à ciel ouvert.
Oui, c'est ça, ça suscite l'intérêt. Il y a des objets tellement curieux, on ne sait même pas parfois quelle est leur utilisation et on vient les voir parce que simplement c'est une énorme curiosité.
Alors le marché opus, c'est plusieurs marchés.
Oui.
Il y a le coin fripe, on l'a dit, un petit peu sauvage sous le périph.
Oui.
Notamment Porte Saint-Ouen, Porte de Clignancourt. Il y a le marché coin vêtements plutôt neuf, plutôt à la mode,
voilà.
Plutôt jeunes, plutôt tendance, derrière le périph, à Saint-Ouen. Et puis effectivement, il y a comme le marché Malik, par exemple, qui est très connu. Et est-ce que d'ailleurs, ce marché Malik, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus récent, ou est-ce qu'il a toujours eu cet aspect un peu fripe?
Non, le marché Malik, c'était vraiment les fripes très 70s, très, très années 80, années 90. Il y a eu vraiment tout, et c'est finalement aujourd'hui, c'est vraiment du vêtement plutôt assez récent et sportswear, mais traditionnellement, c'est vraiment de la fripe.
Quand vous faites visiter les puces de Saint-Ouen, notamment avec Cultival, je le disais, vous commencez où?
Nous, parce que c'est comme c'est un vrai labyrinthe, faut avoir un point de repère. Globalement, c'est l'office du tourisme de Saint-Ouen, c'est rue des Rosiers, c'est une artère qui dessert quasi tous les marchés. Donc c'est, pour nous, c'est intéressant de commencer par là.
La rue des Rosiers, c'est vraiment la frontière entre les fringues, les fripes, les petits gadgets et puis les antiquaires.
Tout,
c'est vraiment la colonne vertébrale.
C'est
et puis, on va y retourner d'ailleurs parce que pas loin de l'office du tourisme, il y a la shop, je crois.
Exactement, mais juste à côté, il y a la shop.
La shop, on va vous expliquer ce que c'est dans un instant. Vous verrez que là aussi, c'est un lieu emblématique des puces de Saint-Ouen. Et on parlait de la rue des Rosiers, justement, au 122 de cette rue se trouve la shop, un bar vraiment très très particulier, très ancien, qui a toute une histoire. On va découvrir ça avec notre invité dans un instant. Mais juste avant, ce sera accès privé, comme tous les jours. Et Muriel Giordan, notre reporter, est à l'Opéra Bastille. Elle est aujourd'hui entourée d'adolescents. Tiens, vous saurez pourquoi dans un instant.
France Bleu Paris.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point, mais ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam da ba da bam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire c'est prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève. Bandabadabam. On devrait dire aux gens quand on les aime, change nos heures amères en poèmes, on devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un mot requiem, et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps.
Patrick Fiori, les gens qu'on aime sur France Bleu Paris, il est midi et demi, dans un instant accès privé, puis on retourne dans l'histoire des puces de Saint-Ouen.
12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. À 16h sur France Bleu Paris.
Bonjour tout le monde.
Relâchez tout, Franck Duret s'occupe du reste.
Ce jeudi encore, pour la plus belle commune d'Île-de-France 2019, c'est à vous de voter. Nous irons en Seine-et-Marne, à Crouilly-sur-Ourcq, avec Quentin Lhuissier qui sera à vos côtés. Et bien sûr, vous aurez aussi du rire, avec les Chevaliers du Fiel, fous d'humour et de la musique.
Ça vaut le détour, tous les jours, 16h-19h. Après le succès de son nouvel album « Promesse », France Bleu présente Patrick Fiori en tournée pour une série de soirées riches de sourires et de fêtes.
Je serai bientôt chez vous et je vous promets qu'on va passer un bon moment.
Patrick Fiori en tournée dans toute la France avec France Bleu.
À bientôt.
Patrick Fiori, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Paris. France
Bleu. Midi et demi, c'est Accès Privé sur France Bleu Paris. Et chaque jour, Muriel Jordan vous invite en coulisses. En coulisses de quoi? Eh bien, après avoir suivi dans les coulisses de l'Opéra Bastille, les jeunes du Créa d'Aulnay-sous-Bois, on les a entendus hier, une école de chant ouverte à tous, parrainée par Nathalie Dessay, notre reporter s'est glissé avec eux, derrière le rideau, à quelques minutes de leur spectacle et dans les loges également. Alors, suivez ces jeunes d'Aulnay-sous-Bois qui pratiquent toute l'année le chant, les arts de la scène, sans sélection ni audition, et qui présentent leur création en public à l'Opéra Bastille en ce moment.
J'entre dans les coulisses.
Ça va, tout va bien?
C'est super de jouer ici, surtout à notre âge, c'est énorme.
Vous n'avez jamais raté une répétition?
Sauf en cas d'extrême urgence où je suis malade par exemple, mais sinon non.
Ouais, vous êtes hyper investi, ça vous plaît vraiment?
Oui. Ah oui, on adore ça, c'est vraiment génial. Voilà, de toute façon, c'est un rythme, faut aimer.
On va voir les garçons, eux?
Oui, je pense.
Ils vont pas m'engueuler?
On va voir.
Les garçons, ça y est, vous êtes visibles, on peut rentrer?
Ça va les garçons, vous êtes en forme?
Oui!
Waouh, c'est chic!
Bah, c'est un beau costume, c'est vrai.
C'est un grand pantalon. Et un grand haut tout bleu marine. Il a des petits boutons sur le haut et je trouve ça vraiment très joli.
Et c'est quoi ton rôle?
Moi je suis un policier.
Et toi tu es quoi? Ah, Simon.
Oui.
Simon, donc il s'est cassé le bras il y a pas longtemps, mais qui quand même est là.
Oui, et bah je savais qu'il y avait pas beaucoup de temps pour répéter, et du coup, en sortant des urgences, je suis quand même venu à l'opéra.
Et c'est pas n'importe quel opéra, hein,
oui,
attention.
Ça reste l'opéra de Paris, oui. C'est pour ça que c'était à pas manquer. Ça a suscité beaucoup d'émotions. Mes parents n'étaient pas forcément d'accord. Ils voulaient que je rentre me reposer. Je venais de... Mais je leur ai dit non, c'est important, faut que j'aille à l'opéra. Et du coup, en sortant des urgences, en fait, je suis venu ici.
Vous avez un peu le trac quand même ou pas?
Bah oui, parce que c'est quand même l'opéra de Paris. Il faut être très précis sur ce qu'on dit et les faire accrocher le plus possible.
Tu as quel âge?
Moi, j'ai 13 ans.
Et toi?
Moi, j'ai 12 ans.
Là, on est juste à côté du plateau, on est dans les coulisses. Monsieur, vous êtes en train de les équiper, ces jeunes?
Oui, on les équipe.
Ce sont des pros.
Donc, on les équipe comme des pros.
Est-ce qu'on t'a déjà équipé avec un micro-goutte comme ça? T'as l'habitude?
Oui, à Aulnay aussi, on nous équipait avec des micros comme ça.
Je te laisse le mettre sur tes oreilles pour pas que ça te fasse mal.
Qu'est-ce qu'on se dit comme ça, quelques minutes de monter sur scène?
Surtout, il y a l'excitation en fait.
Ouais, c'est prêt, ça, d'être sur scène, c'est trop bien. Genre. On est juste dans le jeu et c'est super bien. On est à la place du personnage et on est juste avec tous les autres et on essaie d'être à fond pour que le public soit vraiment dedans aussi, dedans, comme nous on l'est.
T'as un peu de stress quand t'es en coulisses et dès que t'arrives sur scène, tout disparaît.
Vous êtes baladé
oui,
un peu.
On a visité samedi, avant la générale, on a visité l'opéra, on a visité la grande salle et c'est immense et c'est vraiment trop trop bien.
Ouais. C'est incroyable, vraiment. Bah nous, c'est, en plus, on a de la chance, ça fait la deuxième fois qu'on vient, nous.
Alors là, je regarde par le rideau, il y a un super beau décor, ça ressemble à une bibliothèque, une belle bibliothèque à l'ancienne. Il y a une jeune fille qui s'est isolée là sur quelques marches, juste à côté. Pour se concentrer, j'ai l'impression. L'amphithéâtre n'est pas encore rempli, mais ça ne va pas tarder. Je retourne vers Didier. Ah, dis donc, il y en a certains qui s'isolent pour se concentrer, d'autres qui ont besoin de parler, de rigoler.
Normal, normal. Et moi, je recentre tout 10 minutes avant d'entrer en scène. Je suis anti-star system, je suis anti... voilà, tout ce qui fait du tri auprès des enfants. Donc, ils sont tous là. Tous les rôles sont appris par tout le monde, donc remplaçables. Et puis, au Créa, en tout cas, on se construit grâce à l'autre et non pas contre l'autre. Tout le monde réussit parce que tout le monde est construit grâce, je pense, à la culture. Voilà. Je trouve qu'on n'entend pas assez parler de la culture en ce moment. On monte les uns contre les autres, alors que je pense que un des axes possibles, c'est d'être ensemble. Si on chantait tous ensemble partout, voilà. Il faudrait faire à tous les carrefours des chorales, ce serait bien.
Alors, pour voir et entendre ce que ça donne en vrai, vous allez voir, c'est totalement bluffant, hein, il paraît. On vous encourage à aller voir le spectacle jeune public, ça s'appelle Élémentaire mon cher, et c'est à l'Opéra Bastille ce soir à 20h, samedi à 15h, c'est à partir de 9 ans jusqu'à 99 ans, on va dire ça comme ça.
France. France Bleu Paris, découverte.
En tout cas, merci Muriel et à demain. Ah oui, pardon, ça c'est moi. Midi 34, allez, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris, découverte. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Sophie Dernaz, guide pour la société Cultival, entre autres. C'est avec elle que vous pourrez arpenter les rues, les ruelles, les passages, les marchés des puces de Saint-Ouen. C'est grâce à elle que vous découvrirez l'histoire de ce lieu où tout le monde se côtoie depuis bien longtemps. Fripes, brocantes, sweatshirts, sportswear, antiquités, mais aussi guinguettes, restos et bistrots. Et Anne-Sophie, à propos de restos, de bars, on en parlait à l'instant, on va s'arrêter au 122 rue des Rosiers. Même si au fil des temps son aspect a changé, les shops des puces, bah, c'est vraiment un endroit emblématique. Cet endroit a gardé son identité. Comment décrire ce lieu d'ailleurs ?
Bah, oh, c'est un lieu vraiment qui semble ne pas avoir changé depuis 30 ou 40 ans. Déjà, donc faut imaginer, bon, c'est très bonne franquette, c'est très convivial, la nourriture y est simple, c'est moi ce que je qualifie comme nourriture un peu. C'est convivial, c'est la nourriture de grand-mère, quoi. C'est des plats de grand-mère, c'est de l'andouillette, il y a des desserts comme la tarte tatin. Enfin, c'est très sympa.
À midi 35, elle nous donne faim. Mais, ce qu'on va dire surtout,
c'est la musique. Ouais.
Parce que là, c'est quand on rentre tout de suite à gauche, je vous jure, si vous y allez, c'est obligatoire. Il y a un, deux, trois musiciens de jazz manouche.
Et le week-end, surtout le samedi, il y a des concerts, mais il y a des concerts très très souvent. Et en fait, parce que c'était l'ancien bistrot qui était déjà fréquenté par les ouvriers et puis aussi par tous les tziganes qui étaient là, qui se mélangeaient en fait aux puciers. Et puis surtout parce que en fait, ils y ont emmené leur musique, et la musique, c'est ce qu'on parle du jazz manouche. C'est la musique de Django Reinhardt. C'est-à-dire que c'est une musique qui est entre la musette française, qui est entre le swing américain et entre la musique des pays de l'Est. C'est vraiment la rencontre des trois. Et on y joue depuis tout le temps et on y joue encore. C'est des artistes qui sont internationaux du côté du jazz manouche. Ce sont des grands, grands noms du jazz manouche qui viennent jouer au shop des puces.
De temps en temps, Thomas Dutronc, qui adore venir là jouer avec les musiciens moins connus que lui, bien sûr, mais c'est ça, c'est son univers.
Absolument.
Alors, ce que je dois dire, je connais bien le lieu. Django Reinhardt n'est jamais venu, mais pas très loin de cet endroit, il y a une place Django Reinhardt.
C'est ça. Et puis on y joue sa musique. Ouais. C'est très inspirant. Par contre, il y a d'autres grands noms du jazz manouche, Nini Garcia qui joue, ou beaucoup d'autres. Et puis quand Marcel Campion a repris le lieu, en fait, il y a créé une école de jazz qui existe encore. On peut prendre des cours de jazz manouche si on a envie. Il y avait un atelier de lutherie à l'époque qui n'existe plus, mais c'est surtout que c'est un peu hors temps, quoi. Ça ne change pas du fur et à mesure du temps. Il y a toujours des guitaristes, il y a des solos de musique. On y vient pour ça, voilà, ça ne change pas.
Dans les puces, il y a plein d'autres endroits où on peut boire un verre ou manger, hein. Il y a le café Cocotte qui est sans doute le plus branché.
Qui a été designé par Philippe Stark. Donc c'est vrai qu'il est très beau, avec que des objets qui viennent des puces, effectivement. Moi j'aime particulièrement un lieu qui s'appelle chez Louisette.
Ah, je veux savoir ce que c'est.
Alors Louisette, c'est un petit bistrot qu'on ne voit pas parce qu'il est caché dans un marché qui est le plus ancien, qui est un marché de 1919 qui s'appelle le marché Vernaison. Chez Louisette, c'est un petit bistrot qui date des années 30. C'est un bistrot guinguette, c'est-à-dire que encore aujourd'hui et depuis les années 30, il y a des chanteuses, il y a des chanteurs, il y a des joueurs d'accordéon qui viennent, qui jouent plutôt des chansons d'après-guerre et pareil. Et puis, alors la décoration, elle est surchargée, c'est un peu kitsch même. Pour Noël, il y avait des milliards de guirlandes partout, toutes les couleurs, donc c'est très... c'est très étonnant. Et pareil, on a l'impression que ce lieu n'a pas bougé depuis 40 ans.
Puis j'imagine que ça s'appelle Louisette parce qu'à un moment donné, il y a une Louisette qui a dû
passer
par là. Moi, c'est
chez Louisette. Ouais, c'est ça. Il y a une Louisette qui a dû passer par là. Dans les années 30, c'est ça. Ah, ouais, c'est elle qui a ouvert.
Bon, bah, on va continuer parce que, il y a le café Piccolo aussi qu'il faut y aller.
Piccolo, ouais. Piccolo, c'est un Italien qui crée la guinguette. Je vais vous expliquer, c'est pareil, c'est une guinguette. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un bistrot. Donc, on y mange la nourriture de grand-mère, c'est des plats vraiment très traditionnels. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est un café-théâtre qui va se mettre en place. Aujourd'hui, il y a des représentations. C'est l'un des plus anciens. Il y a des représentations. il y a du théâtre. On peut y voir aussi des concerts de blues, de rock, de folk. Enfin, c'est le Café Piccolo, il est très étonnant pour ça, quoi.
On parle pas assez, justement, de les puces, c'est pas simplement des fringues, des frics, de la brocante, de l'antiquité. C'est aussi un endroit de vie où on peut se rencontrer, écouter de la musique et puis passer un excellent moment. Mais on va quand même faire un petit tour du côté de certains de ces marchés qu'on va reciter. Et puis, on commencera dans un instant par le berceau historique, peut-être le marché Vernaison. Et puis, j'ai oublié de vous poser une question très importante. Pourquoi ça s'appelle le marché aux puces? Eh ben, on aura la réponse dans un instant.
France Bleu Paris.
We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled.
What about us? C'était Pink sur France Bleu Paris. Alors pourquoi on appelle les puces les marchés aux puces? Pourquoi on appelle les chineurs des chineurs? Vous aurez la réponse juste après ça.
France Bleu. Avec France Bleu, toutes les richesses des régions de France sont dans une heure en France.
On revient sur des trésors retrouvés dans un jardin à Tarbes, des voitures de collection. Ensuite, on se penche sur une entreprise qui crée des toilettes design. Et enfin, on achète une rangée de vignes pour la Saint-Valentin en Bourgogne ou en Bordelais.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h. We'll be right back. France Bleu Paris.
On est aujourd'hui à Saint-Ouen, dans les puces de Saint-Ouen, son histoire, ses lieux incontournables, ses personnages emblématiques. On continue à suivre les conseils de notre guide pour Cultival, entre autres, Anne-Sophie Dernaz, qui en connaît tous les secrets. Pourquoi les puces s'appellent-elles les puces, Anne-Sophie?
Alors les puces, parce que bon, bah, au 19e siècle, il y avait l'un des objets parmi tellement d'objets qui se vendaient, c'était les matelas éventrés, on les vendait puces comprises. Donc il y avait des puces. Voilà, donc ça a donné le nom.
Il y en
voilà,
a plus maintenant. Puces.
Non, a priori, il n'y en a plus.
Pourquoi on dit chiner, les chineurs, d'où vient ça?
Alors, les chineurs, la Chine, on parle de la Chine pour ce métier-là, parce que courber les chines, ramasser un objet, on parle juste, entre parenthèses d'ailleurs, de crocheteur de lune, pêcheur de lune, c'est des objets, enfin, c'est des termes beaucoup plus poétiques, parce que comme ils sortent avec une hotte, un morceau en bois, et donc ils sortent la nuit, donc c'est des crocheteurs de lune, c'est des pêcheurs de lune, vous voyez.
Ah, ils courbent les chines, donc
ouais.
Chines.
Voilà, donc il y a plein de noms très poétiques.
Et puis, alors, on parlait à l'instant du plus ancien, le berceau historique du marché aux puces, ouais. C'est le marché Vernaison. Pourquoi ce nom? Qui était ce monsieur ou madame Vernaison?
Romain Vernaison, il louait en fait, par exemple, c'était un entrepreneur qui était assez brillant dans les affaires et qui a commencé à louer des chaises, par exemple, dans le jardin des Tuileries, qui a fait une petite fortune et puis qui a continué à multiplier les projets comme ça. Très atypique, et il a racheté des territoires du côté de Saint-Ouen et a loué ces territoires aux puciers. On parle du marché Vernaison.
D'accord, c'est le plus ancien, c'est là où se trouve.
1919, c'est le plus ancien. Il y a de tout. Alors, le marché Vernaison, parce que dans les puces, tout n'est pas vraiment accessible, hein, financièrement. Il y a des marchés un peu musées, ce qui est le cas de Paul Bert-Serpette. Mais Vernaison, par contre, non, c'est accessible, vous pouvez y aller. C'est des tiroirs pleins de perles, de cristal, de pendeloques. Il y a plein de petits objets complètement accessibles.
Paul Bert-Serpette, c'est effectivement plus les antiquaires professionnels qui viennent là. C'est un petit peu une vitrine, peut-être sans doute, de ce qu'ils ont autre part comme
Paul
boutique.
Paul Bert-Serpette, c'est sublime, c'est magnifique. Alors, il faut imaginer qu'il y a des costumiers, des décorateurs de théâtre et de cinéma de Paris qui viennent chercher des pièces un petit peu uniques. Donc, c'est vrai que c'est des objets assez uniques en soi. Et Paul Bert-Serpette, c'est ça, c'est le marché musée. Vous rentrez, et c'est juste la flânerie, c'est le plaisir de voir des pièces incroyables.
Ouais. On a toujours marchandé aux puces, hein, depuis le début, puisque les chiffonniers ont marchandé aujourd'hui encore.
Absolument,
un petit peu.
Absolument, on marchande encore. Pour marchander, par contre, il faut être armé, hein. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir connaître un petit peu, il faut avoir quand même deux, trois connaissances, hein, parce que les puciers, eux, sont très, très armés, ils connaissent absolument leurs produits. Donc, c'est possible, mais faut s'attendre à la réponse.
Allez, selon vous, on fait encore des affaires ou pas aux puces?
Oui, on fait des affaires. On fait des affaires dans certains marchés, absolument. On fait des affaires. Je pense que pour acheter de la fripe, c'est encore un très 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 bon plan. Pour ceux ou celles qui aiment les vêtements des années 50-60, il y a des marques comme chez Gilda qui produisent des vêtements, ce qu'on appelle rétro, hein, des années donc 40-50 jusqu'à 60. Et ça, oui, on fait des affaires, on marchande. Et ouais, c'est un peu le plaisir de retrouver des pièces uniques.
Et le marché aux puces, c'est plusieurs marchés. Il y a le marché Jules Vallès qui est, semble-t'il, d'après ce que j'ai lu, le premier marché couvert des puces. Avant, tout était à ciel ouvert, hein. Faut le rappeler, ça. Avant,
oui, ça se faisait même. Il n'y avait même pas de baraque. Ça se faisait au sol. Ça se faisait comme ça. Et ça se faisait de manière un peu précaire, en fait. Et c'est petit à petit, effectivement, avec le succès qu'il y a eu, ça a été un petit peu normalisé, géré, organisé. Mais aujourd'hui, on a des marchés à ciel ouvert, des marchés couverts. Il y a des jardins, il y a des bistrots, enfin il y a plein de choses.
Il y a du street art, il faut pas louper, il y a des très beaux murs peints avec des graffs.
C'est très connu. Alors le nord de Paris globalement, ne serait-ce que tout le 18e arrondissement, ouais. La Goutte d'Or, etc., le Châtelet, et puis la Porte de la Chapelle, et puis le 18e, et au-delà du 18e, c'est très connu pour le street art. Et il y a vraiment un crew street art, il y en a plusieurs qui depuis très longtemps, parce que faut imaginer que quand les boutiques ferment, les rideaux ferment et ça devient relativement triste. Donc tous ces rideaux ont été recouverts de peinture et au départ, les boutiques, les marchands accueillaient un peu mal, hein, d'ailleurs. C'était un peu mal accueilli. Maintenant, ils travaillent ensemble. Il y a des commandes qui sont passées, mais au départ, c'était difficile. C'était deux mondes qui se rencontraient et qui venaient d'horizons complètement différents.
Quand est-ce que vous faites visiter les puces de Saint-Ouen, notamment grâce à cultival.fr?
Alors quand c'est le week-end, donc d'accord. Vendredi réservé, oui, voilà. Mais samedi, dimanche, lundi, voilà. À peu près,
donc on peut vous rencontrer endroits. Là-bas et vous suivre là-bas. Absolument. En petit groupe à partir de combien?
Un petit groupe, ça peut être vraiment des tout petits groupes jusqu'à 20, une vingtaine de personnes.
C'est ouais. Pas toute l'année, ça reprend quand?
Non, ça peut être toute l'année. Il y a une pause un petit peu à l'été, mais ça peut être toute l'année. C'est juste, ça dépend des. Ouais, s'il y a des frileux, c'est pas l'hiver, quoi. Mais sinon, ça peut être toute l'année.
Pour en savoir plus, un seul moyen, cultival.fr. On peut encore partir à la recherche du jean vintage, de la dernière paire de chaussures de sport très tendance. On peut trouver le canapé 70s ou le candélabre du 17e siècle. C'est peut-être un faux, c'est peut-être un vrai. C'est peut-être une bonne affaire ou c'est peut-être pas une bonne affaire. Tout ça, c'est le charme des puces de Saint-Ouen. Un lieu qui vaut le détour juste pour le plaisir des yeux. Alors on peut, une fois encore, je le rappelle, le visiter grâce en réservant sur cultival.fr. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer Anne-Sophie Dernaz. Merci d'être passée par ici.
Merci à vous.
Ça s'est bien passé pour une première.
Oui.
À bientôt.
France Bleu Paris. France Bleu.